Radio Esperanza.
Radio Esperanza.
Esperanza, c'est propre.
On peut dire ce qu'on veut et surtout de la spontanéité.
Radio Esperanza.
Vous nous écoutez sur radio.esperanza.be, mais aussi en FM sur les ondes des radios partenaires.
Radio Panique.
Radio Panique
105.4 à Bruxelles.
Radio Campus Bruxelles, 92.1.
Radio Larzac.
Sur
87.8.
Et 98.6.
48 FM.
48 FM sur 105.0.
Vous nous écoutez sur Rhône.
88.1.
Radio Campus Amiens sur 87.7.
UFM 106.9 à Mons.
Radio.
Radio Esperanza.
Esperanza.
C'est Lisette, vous êtes en direct sur radio.esperanza.be. Il est 16h30, on est parti pour 45 minutes libérées de Possible or Not Possible avec Ombéline, Manu et Ludo.
Salut.
Coucou. Tout est possible.
Mon petit lapin, j'aime tes grandes oreilles, tes petites quenottes et ta queue en pompon.
Mon petit lapin, à notre monde, Possible or Not Possible.
Mon petit lapin. Tu es mon seul ami, tu ne me dis rien, mais je sais que tu m'aimes aussi.
Et oui, nous revoilà, me revoilà, vous et moi, nous ensemble avec elle et eux ici à Esperanza dans l'abbaye de Floreffe en Belgique. Nous revoilà dans le studio pour une troisième année de Possible or Not Possible dans Radio Esperanza. Oui, est-ce que tout est possible? Qu'est-ce qui ne le serait pas et qui nous en empêcherait? Ici, nous avons 4 jours pour réinventer, rencontrer, participer, apprendre, partager et dans ce micro 45 minutes jusqu'à dimanche, chaque jour en direct. Pour dire que oui, un autre monde, c'est possible. Alors, à Esperanza, un village des possibles où les gens se croisent et se sourient, parfois même qu'ils se parlent. Oui, on aurait dit que dans ce village, les alternatives ne connaissaient pas la crise et qu'en plus, elles se transmettent pendant que d'autres s'inventent. Un village où s'entremêlent les idées, les rêves, le mouvement. Un village où commence l'autre histoire. Un village où le bordel est constructif. Et avec nous, pour en parler, Fred Cools, comment allez-vous? Bonjour.
Très bien, mademoiselle, très bien.
Il me semble que vous êtes toujours le responsable du Village des Possibles.
Avec mon collègue Jérôme.
Avec Jérôme.
Qui viendra demain.
C'est ça, et qu'on a pu entendre sur l'antenne de Radio Esperanza hier pendant le débat.
Si tu le dis, je te crois.
Oh, merci. Bon, alors, il y a une campagne, il paraît, cette année dans le Village des Possibles qui, finalement, il y a un Esperanza au-delà d'Esperanza, hors les murs, qui se fait avec une campagne qui s'appelle
voilà,
Les Alternatives ne connaissent pas,
la crise. Donc le principe, c'était que les autres années, c'était le CNCD qui avait une campagne et le festival se mettait à la suite de la campagne. Et là, c'était l'inverse. Donc c'était de partir d'une campagne du festival et par exemple, là, les associations et le CNCD aussi suivent le mouvement selon leurs activités.
C'est quoi une alternative?
C'est tout ce que tu peux faire qui est autre chose que ce qu'on te propose de faire, je ne sais pas. C'est assez large comme question.
Mais tout à fait. Mais il y a plusieurs définitions des alternatives. Alors, il y en a qui disent que l'alternative, c'est l'autre chemin et qu'en fait, finalement, l'alternative, elle n'existe que s'il y a... on dit qu'il y a une alternative quand il y a forcément deux chemins.
Si tu le dis.
Mais tu vois, c'est compliqué, voilà. Quand même. cette année, il y a des nouveautés un petit peu. On a vu qu'il y avait des nouveaux collectifs qui avaient rejoint.
Oui, on est passé de, en gros, une vingtaine d'assos à une grosse quarantaine d'assos. Donc, on a poussé un peu les murs, on a essayé. Donc là, c'est un peu entassé, ça marche très bien comme ça. Et justement, c'était l'idée de taper plus large et de ne pas rester dans ce qu'on connaissait, d'aller vers des associations qu'on ne connaissait pas du tout, des thématiques qu'on ne connaissait pas du tout, et donc de montrer que les alternatives, ça pouvait se trouver dans tout et n'importe quelle thématique.
Est-ce que tu as des petites choses en tête comme ça, des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé au départ?
Par exemple, un truc assez intéressant et assez improbable, c'est une association qui s'appelle Permafungi. Et en fait, ils font pousser des champignons sur des mares de café. Donc, ils vont dans les cafés, les grands cafés, ils récupèrent le mare de café, donc le café utilisé mais qui est jeté. Et ils le font, ils injectent dedans des spores de champignons. Et après, ça fait pousser des pleurotes, ce genre de choses. Donc, c'est comment est-ce que tu pars d'un déchet pour faire quelque chose qui va être utile pour la suite.
Génial. Donc, eux, c'est leur première année à Esperanza.
Ouais.
D'accord. Perma.
Permafungi.
Permafungi, à aller découvrir. Ludo, toi, tu nous as fait vibrer déjà aujourd'hui avec le Salon des Autochtones, qui est très lié aussi à cette émission Possible or Not Possible, parce que c'est un peu le off du off,
c'est
près du Village des Possibles. Donc cette année, on se retrouve ensemble en studio.
C'est un plaisir, dit. Et l'injonction, il était temps de la faire, oui. Elle est évidente, entre le village et effectivement le jardin des Autochtones, ce qu'on appelle comme tel. Je pense que c'est le même terrain.
Du coup, toi, en amont d'ouverture du festival, tu vas prendre des sons avec ton équipe. Et donc, tu avais des petites choses à nous faire écouter justement sur comment ça se monte, comment ça s'organise, toutes ces petites fourmis.
Tu as vu le résultat déjà, ouais. Comme le village est beau, effectivement. Donc, j'ai attrapé Romain. en fait, qui était en train de monter, faire le montage.
T'as attrapé Romain, c'est pour ça que t'es rentré tard, en fait, ce matin.
Oui, oui. D'accord. Et bah, écoute, il en parle très très bien, en fait, si jamais on a l'occasion de l'écouter, ici.
Il est là, petite Romain, Sylvain est-ce qu'il serait là, Romain?
Je pense que c'est là, ouais, c'est en place. Ouais.
Oh, bon, on l'écoute.
Ouais, on peut l'écouter.
Le jardin des autochtones.
Ça avance bien, quoi. Comparé à l'année dernière, on est plutôt dans les temps. Du coup, c'est chouette, quoi. Ça fait plaisir. On a décidé de bosser un peu différemment, quoi. Un peu plus chacun. Créer ces petits modules et du coup on avance vraiment en parallèle. C'est chouette, ça permet à chacun de s'exprimer. Voilà, plutôt cool quoi. Faut encore que ça prenne place, les différents modules, les différents espaces. Mais ouais, on a le bois, c'est vraiment un chouette matériau et ça se met plutôt bien avec les bâtiments un peu anciens, le seau, les containers. Il y a un côté un peu destroy, récup qui prend bien vie quoi.
Voilà, oui, ben, on est ici, place au possible. Et c'est vrai que ça avance bien, c'est magnifique le décor. Hein, et somptueux déjà, rien qu'avec des palettes.
Tu peux tout faire avec la récup, il n'y a rien de se perd. Franchement, tu peux créer avec tout ce que tu veux. Est-ce que tu récupères pas dans le poêle à bois, quoi? Ou dans le poêle à pizza?
Ton prénom?
Romain.
Ok, donc là, on est la veille du démarrage du festival, mercredi. Et apparemment, tout sera prêt dans les temps, non?
Ouais, il y a moyen. Mais c'est comme l'année dernière, on sera prêt 3 heures après l'ouverture du festival.
À l'aise.
Voilà, c'est les 3 heures de retard réglementaire, quoi.
À l'aise. Voilà, je suis avec deux enfants.
Moi, c'est Caïs.
Et moi, c'est Caïssar.
Ok, vous êtes ici dans le village au possible, qu'est-ce que vous en pensez?
Il est bien, je suis allée l'année passée. Je ne sais pas s'il va être aussi bien, mais je l'espère.
Et moi je trouve que c'est très bien, j'avais pas encore été, et je trouve que c'est très bien de faire des parce qu'en fait on fait des bancs hein, en bois, et donc on n'utilise pas de produits chimiques pour... et donc ça, je trouve que ça protège bien la planète. Et je crois qu'il va être quand même assez joli.
Voilà, c'est un peu la thématique cette année, le bois. Le bois est très très visible, d'ailleurs, mais village au possible. Tout a été construit avec de la récup de palettes.
Ouais. On a fait ça au moins cher, surtout, c'était surtout cette idée. Ouais.
D'accord.
On n'allait pas faire ça en métal, machin.
Mais c'est beau.
Ah non, c'est super beau. Et en fait, ils sont vraiment, vraiment, vraiment balèzes, en fait. Donc c'est le collectif Hello Girls, donc c'est un collectif de Liège, qui est aussi lié avec le collectif Tada, donc c'est les gens qui organisent le festival des Barbantes. Et vraiment, ils ont un talent assez incroyable.
Et une imagination terrible.
Ouais. Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, le collectif Hello Girl, il vous invite à venir manger des crêpes sérigraphiées demain à 15h sur le village des possibles et dimanche à 16h. Et là, ils ont pas pu venir parce que justement, ils faisaient de la sérigraphie sur crêpes.
Oui, ils sont en plein dedans en ce moment. Mais c'est magnifique, ça. C'est un art éphémère total. Parce que tu la manges, hein, de toute façon. Donc,
Bon, elles sont pas super bonnes, j'avoue.
C'est vrai. Oh merde. Pardon.
Et c'est vrai qu'il y a un amphithéâtre cette année. Il va servir à quoi l'amphithéâtre en fait? Il y a des petits débats.
Alors l'idée c'était qu'eux ont voulu faire un amphithéâtre, après on ne savait pas ce qu'on allait mettre dedans. Et donc on a mis une scène devant, et donc c'est une scène pour les artistes qui viennent après. Donc les artistes de grande scène viennent souvent dans le village. Donc là ils peuvent jouer, il y a des débats, il y a des rencontres. Ça sert aussi pour les assemblées du village qu'on fait le matin, donc les rencontres entre toutes les assos. Donc c'est un lieu un peu convivial où on peut faire se rencontrer les différents assos et les différents publics quoi.
Et justement, qu'est-ce qui ressort de ces rencontres inter-assos? Est-ce que vous avez déjà de l'expérience? Enfin, est-ce qu'il y a des projets communs qui sont construits? Est-ce que des petits bébés sont nés d'Esperanza?
Là, c'est le deuxième jour, donc c'est pas encore vraiment le jour où ils vont faire des bébés. Mais donc, en gros, l'idée, c'est tous les matins proposer une activité. Donc, par exemple, ce matin, c'était une activité qui avait pour objectif de les mettre pour une première fois en lien. Donc là, en gros, simplement, ce qui est ressorti, c'est le fait qu'on ne se connaît pas tous. Et donc là, c'est intéressant peut-être de se connaître, de voir un peu qui a quel avis sur quel sujet. Et on va essayer d'évoluer en fonction des jours dans les activités pour essayer d'avoir de plus en plus de liens et de montrer à ces différentes assos que même si elles ont des projets différents, elles ont un point commun et que ce point commun peut être mis en valeur pour la suite, donc que ça ne s'arrêtera pas à Esperanza mais qu'on peut continuer par après. Donc c'est dans ce cadre-là par exemple qu'il y a un petit livret qui est disponible dans le village où différentes assos ont écrit des textes sur justement les alternatives qui est disponible là. Il y avait ça et un annuaire qui est toujours en cours de rédaction, donc un annuaire sur les différentes alternatives, les contacts des gens, ce genre de choses.
Parce que les crêpes sérigraphiées mélangées avec les champignons dans le marc de café, ça peut donner un truc complètement explosif.
Ça peut faire mal au bide, oui.
Alors du coup, on a Sismo aussi avec nous qui ont ouvert le festival aujourd'hui, enfin cette journée de festival à 15h devant le village des possibles. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Et donc voilà, vous arrivez un peu, en fait on s'est gouré complètement sur les calages d'interview aujourd'hui. Du coup on se retrouve avec Sismo, mais on est très heureux parce que finalement c'est Ludo qui va pouvoir faire cette interview avec nous tous. Juste je fais un petit coucou donc au réseau Hades qui sont à notre droite, Mélanie.
Bonjour.
Mélanie, Julien et Chloé, bonjour à vous. On discutera de ce que vous proposez au festivalier, en fait, juste après le morceau de tout à l'heure.
Oui, Sismo, comment ça se passe alors, l'accueil ici? Vous êtes content d'arriver?
Ouais, bien.
L'accueil,
bien.
Ça fait bien?
Bien sûr, on est super content d'être là. On est encore en train de régler des détails d'agenda et de planning et tout ça. Mais sinon, l'accueil, on est content d'être là. Ouais. Première fois, Esperanza.
À l'aise. Ouais. Ouais, ça fait plaisir de vous voir aussi. Et qu'est-ce que vous allez proposer cette année alors, du coup?
Donc on clôture notre deuxième saison, donc on propose quelque chose qui est dans la continuité de ce qu'on a fait pour l'instant. La musique de Sismo, c'est une musique qui est entièrement improvisée, avec un ensemble qui est constitué de 13 percussionnistes et d'un chef d'orchestre. Donc la grande particularité de notre travail, c'est que le chef d'orchestre communique avec les musiciens en moyen d'un langage de signes. Donc un langage de signes qui a été élaboré spécifiquement pour composer de la musique en temps réel. Il permet de communiquer avec les musiciens en leur donnant en leur attribuant les rôles qu'ils vont devoir jouer dans la musique, en composant précisément aussi certains aspects rythmiques plus techniques de la musique. Il y a une possibilité d'écrire réellement du phrasé rythmique en temps réel en utilisant des combinaisons de doigts. Donc c'est vraiment un code gestuel.
Comme tu le dis, ça paraît important, vous êtes nombreux et il faut s'entendre, effectivement, il faut se comprendre, s'entendre dans le groupe.
Bien sûr. Ouais. C'est pas de l'improvisation, c'est vraiment un travail de composition en temps réel. Les musiciens ne sont pas libres de jouer, de rentrer, de sortir comme ils veulent. C'est vraiment un travail structuré, organisé, avec la confiance qui est la responsabilité qui est reportée sur le chef d'orchestre, qui lui guide l'ensemble pour que la musique soit composée de manière concrète et structurée.
Et qui est chef d'orchestre?
Et donc on est plusieurs chefs d'orchestre, on est deux ici, Mauro et moi. Il y en a un troisième qui est Guillaume, et puis une formation de chef d'orchestre qui continue, disons, de manière à pouvoir faire tourner plus de monde dans le futur. Quoi.
D'accord. Vous jouez à quelle heure alors?
Et donc on joue à 19h sur la scène découverte et à 20h45 dans le jardin suspendu.
Alors on viendra vous voir, oui.
Bah oui.
Et vous enregistrer un petit peu peut-être.
Il faut venir danser, hein, parce que ce qu'il a oublié de dire, c'est que le but du groupe, c'est quand même de faire danser. Hein, Sismo, we play seismic music, you dance, c'est le slogan. Et voilà, donc moi, je ne suis pas directeur, hein, je suis un des esclaves rythmiques. Mais si je me plie en quatre à suivre le chef d'orchestre, c'est pour tous vous faire danser. Donc il faut venir nous voir.
Et alors moi je suis passée devant vous tout à l'heure, vous aviez des habits, vous étiez déguisée, non?
On a un costume spécial, on l'a pas ici parce que
t'es chaud.
On a sué,
il est déjà mouillé.
Ah oui, il est déjà mouillé, il sèche, ouais.
À la radio ça ne se voit pas de toute façon, oui. C'est pas un problème.
Ouais. Et alors c'est quoi le déguisement, est-ce que vous pouvez le décrire pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous ont pas vu, eux, à 15h devant le village des possibles?
Ah, on a un beau t-shirt, on a un beau t-shirt bleu, Bleu pétrole.
Oh, oui,
avec une pastille rouge sur le côté. Hein. On a un rond rouge sur le côté. Et derrière, c'est très important.
Le slogan.
We play seismic music, you dance.
Et la pastille rouge, c'est le point où le séisme commence. Voilà. Et c'est le séisme qui va détruire la ville dont on parlait tout à l'heure.
D'accord.
Et alors juste avant de vous libérer, comment ça se passe vous durant l'année? Là par exemple, vous êtes à Esperanza, après est-ce que vous avez d'autres dates? Vous allez dans d'autres endroits, vous allez dans les festivals de rue ou de festivals, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Nous, on produit nous-mêmes une série de dates de manière régulière à Bruxelles. Donc on construit ça avec notre public depuis 2 ans, on attaque en septembre la 3e saison. Et ça se passe au Recyclard et à l'atelier 210, donc à Bruxelles cette saison-ci, en commençant le 17 octobre au Recyclard, avec Pitcho comme invité. Et puis sinon, on délocalise aussi dans des festivals. Donc en septembre, il y a un agenda assez chargé qu'il faut venir suivre sur notre site, sismo.be. Et puis sinon, oui, ponctuellement, à droite à gauche. Mais on est producteur aussi de nos soirées. Alors à ce moment-là, qui se passe de vendredi soir, tard, dans des lieux dédiés à ça.
Question, parce qu'on parle de ça, mais quelle musique en fait quelles sont les musiques que vous jouez? Parce que tu parles d'improvisation, apparemment il y a beaucoup de mélange, il y a beaucoup d'ouverture.
La musique, on peut que la qualifier de sismique parce qu'elle n'a pas d'autres consonances claires, si ce n'est qu'on va forcément entendre des accents de musique qui viennent des quatre coins du monde, mais on ne fait pas du tout de travail sur la pratique d'une tradition ou sur le style. Si ce n'est que les influences en fait, qui sont contenues dans le langage qu'on utilise nous amènent à faire une musique qui est construite plus comme de la musique électronique que comme de la musique acoustique ou traditionnelle. Donc voilà,
basé sur la rythmique quelque part.
Basé sur la rythmique de toute façon, mais on a donc la liberté d'aller dans les directions qu'on veut, et les signes contiennent des choses de musique électronique, des risers, des breaks, des filtres, des cuts, des trucs pareils. Tout ça, c'est les signes qu'on utilise, et donc on emprunte vraiment ce langage-là de manière à faire une musique qui embarque les gens dans un truc qui est tout à fait atemporel, non traditionnel, intergénérationnel, tout ce qu'on veut, et très brut puisque c'est que de la percussion.
Excellent.
Voilà.
Et alors ça tique, c'est marquant que vous dites qu'il y a Pitcho qui vient, qui est donc vraiment dans le monde du hip-hop et du rap, donc à Bruxelles. Et en même temps, quand vous parlez que c'est de la musique qui n'a pas, comment dire, assez électro et assez inattendue, en fin de compte, avec Pitcho, ça m'a, enfin, comment dire, c'est un peu logique finalement, parce que c'est son travail artistique aussi à Pitcho.
Ouais,
comment la rencontre s'est faite?
Elle s'est faite un peu par hasard pour d'autres choses, mais on s'est rencontrés simplement. Et puis nous, on réfléchit depuis un certain temps, on réfléchit toujours aux gens qu'on a envie d'inviter. Donc à chacune de nos soirées, quand on joue sur scène amplifiée, c'est pas le cas cette fois-ci à Esperanza, puisqu'on fait des plus petits sets, mais dans nos sets habituels, il y a toujours un invité qui est toujours différent et avec qui on fait une rencontre spontanée. Très peu de préparation à l'avance, et une rencontre sur scène pendant 20-30 minutes. Et avec Pitcho, ça fait naturellement. On joue beaucoup avec des DJ, avec des MC, des rappeurs. On aime bien généralement cette rencontre-là, elle convient bien au groupe. Voilà.
Ouais, musique urbaine.
Musique urbaine. Mais on a joué avec. Tout est possible.
Et du coup, vous avez vu, juste avant qu'on vous libère, vous avez vu des petites choses sur le festival, vous avez le temps de profiter aujourd'hui, pas encore, hein? Non, c'est un peu dur.
On est le chapeau de roue là pour le moment, on est arrivé, on a installé le matos, on a joué, on règle des petits détails, donc voilà, on a découvert la radio.
Vous avez des envies, un truc que vous avez envie de voir?
Oui, il y a un concert juste en même temps que nous.
C'est possible ça, ouais.
On va faire des équipes.
Tout est possible, il y aura que la moitié du groupe au prochain concert.
En fait, je suis venu ici pour vous demander comment est-ce que je pourrais faire pour voir jouer et voir le...
On peut vous enregistrer et vous rediffuser après, voilà. Faire du playback,
il y a
moyen. Ouais.
C'est toujours possible. Bon, et ben on se quitte, du coup, nous on va lancer un petit morceau de musique.
Tout grand merci.
Merci à vous. Fred, on te libère aussi ou tu restes avec nous pour l'autre partie de l'émission? Tu dois y aller. Hein. merci à tous. Nous, on se retrouve juste après avec le réseau Hadès, Manu, Ludo, Ombé, Elisette. Et on se balance un petit son de Plaza Francia, la Mano Encima. Elle sera en concert côté jardin à 22h, je crois.
A jugar hasta el fin.
la vida, el amor. No me importó, ni lo vi, y que no fueras el hombre ideal para mí. Eras vos y para de contar. Y no me quedo aquí a esperar a ver si sucede otra vez. Alumbraba el jardín. Hay una frontera que no hay que cruzar. Después no hay manera de volver atrás. No te lo voy a perdonar. Ya sabes, y no me quedo aquí a esperar a ver si sucede otra vez. Oh, no te lo voy a perdonar. Vos ya sabes, y no me quedo aquí a esperar a ver si sucede otra vez.
Possible or not possible, on est toujours en direct sur radio.esperanza.be avec nous le réseau ADES, ça va toujours bien ?
Ça oui, va, merci.
Et mon acolyte Manu, comment tu vas mon Manu ?
Ça va très bien.
Donc Manu qui nous vient tout droit du Burkina, qui fait partie du festival FESDIG et de Radio FESDIG surtout. C'est ton premier festival Esperanza Manu ?
Oui, c'est le premier, le tout premier et aussi je peux dire que c'est le premier voyage aussi en Europe ici. Mais ici, le séjour se passe très bien, pas mal, on gère tout et ça va.
Quelle est la, quand tu es arrivé en Europe, c'est quoi la première chose qui t'a, je sais pas, qui t'a choqué, interloqué, interrogé, fait bizarre C'était quoi ?
Bon, la première chose qui m'a choqué quand même, c'est de voir peut-être quand même chez nous que tu connais quelqu'un que tu ne connais pas, en croisant, tu lui dis bonjour et tu continues. Donc, c'est la première chose, franchement, qui m'a choqué de voir aussi peut-être des gens qui se passent. Et tu leur dis peut-être bonjour, ils te regardent, ils continuent son chemin, quoi.
Ouais, ça, tu notes que c'est une grande différence entre l'Afrique
et... Ah ouais,
et,
franchement, là, c'est une grande différence.
Et c'est vrai que c'est... Alors, à Esperanza, encore, on est dans un milieu un peu entre nous, donc les gens se croisent, se sourient, se disent bonjour. Mais c'est vrai que dans la vie, en France, par exemple... Enfin, moi, pour vivre à Paris, par exemple, c'est pas gagné. Et en Belgique, comment ça se goupille en Belgique ? On se dit un peu plus bonjour ?
Bon, on est plutôt cool en Belgique. Hein. Ça dépend des endroits, mais c'est vrai que ça dépend un peu des personnes. Mais on se dit vite quand même bonjour.
D'accord.
Ouais.
Bon, c'est les Français, de toute façon. Ils sont mal élevés. Manu, toi, t'es allé faire un petit tour sur la place des Possibles ?
Oui, j'ai fait un tour sur la place des Possibles. Franchement, j'ai découvert plein de choses qui sont merveilleuses. N'hésitez pas, allez-y voir avec vos yeux.
Et les alternatives au Burkina, est-ce que c'est quelque chose qui commence à se créer ? Des alternatives par rapport à quoi ? Enfin, toi, tu es capable de nous dire un petit peu ce qui est possible là-bas au Burkina ?
Les alternatives, ça commence à prendre de l'ampleur aussi parce qu'on a aussi des assos comme ici, qui commencent à faire de bon travail, Par exemple, on a des femmes aussi qui créent des associations et qui se basent sur le bail de carité. Et là, je vois que ça commence à prendre de la peur et ça aide aussi la société.
Comme des coopératives, en fait ? Oui. Elles se rassemblent pour être plus fortes ?
Elles se rassemblent pour être plus fortes. Il y a des femmes qui se rassemblent pour faire du bail de carité. D'autres, c'est le Sumbala, mais je ne sais pas si vous le connaissez.
Non.
Ah, le Sumbala, c'est fait à base de fruits de néré. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le néré. Le néré, c'est des graines. C'est rouge. Des graines jaunes.
Jaunes.
Et là, les femmes les collectent pour faire du Sumbala qui est nourrissant aussi, et très, très nourrissant.
D'accord. Et donc, du coup, ça, c'est une vraie possibilité pour elles de gagner en autonomie, j'imagine, en droit aussi, parce que j'imagine qu'au Burkina, je ne sais pas, c'est des préjugés, mais bon, j'imagine que l'indépendance ou l'autonomie de la femme, ce n'est pas encore complètement gagné.
Bon, je peux le dire oui, parce que je ne vis pas dans les foyers de tout un chacun. Mais franchement, je sais que aussi la liberté aussi des femmes commence à prendre aussi de l'ampleur. Quand tu regardes quelqu'un qui a une ou deux femmes, tu ne peux pas dire à la femme de ne pas faire ce qu'elle veut, parce que vu aussi qu'elles sont deux ou trois, forcément, il faut les laisser faire leur liberté et aussi les permettre aussi de te soutenir aussi dans tout.
T'en as combien de femmes, toi, Manu ?
Je n'ai pas encore de femmes, mais je suis un célibataire d'abord pour le moment.
Alors voilà, auditeurs et auditrices, si vous nous écoutez, on est là, on est au studio avec Manu. Donc voilà, il est célibataire. En tout cas, avec nous, le réseau ADES. ADES, qu'est-ce que ça veut dire ?
Réseau pour des alternatives démocratiques, écologiques et sociales. On vise large.
Vous avez un sur le village des possibles, vous avez quand même un grand espace. Je suis passée vous voir tout à l'heure, on a discuté un petit peu. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ?
Alors, on a un réseau qui agit sur beaucoup de choses à la fois. Comme je dis, on est large, on est assez éclectique. Et du coup, pour le stand, on a proposé aussi des choses assez éclectiques, mais qui nous donnaient un peu envie pour le festival. En premier, il y a une partie du stand. On peut y venir déguster des smoothies de fruits et de légumes qu'on a récupérés hier et qu'on va encore récupérer demain, hier au marché matinal à Bruxelles et demain au marché de Namur. Et donc, on en fait des produits consommables pour montrer tout ce qu'on peut faire en matière de récup alimentaire. Il y a une autre partie qui traite de l'intelligence collective, où on essaye de faire quelque chose de très participatif dans le festival, dans le village des possibles. Mais ça, on pourra en reparler plus longuement. Et puis, une partie plus ludique avec un kicker où simplement, on invite les gens à venir jouer. Puis après,
le kicker, c'est baby-foot ?
Un baby-foot.
C'est ça. Pardon, excusez-moi, j'ai mon dico.
Et voilà, il y a plusieurs...
Vous êtes arrivé quand sur le festival ?
Hier.
Hier, donc déjà hier, vous avez pu commencer à initier les activités avec le public. Comment ça prend, Mélanie ?
Ouais, ça s'est fait petit à petit. C'est vrai qu'hier, on n'était pas encore avec beaucoup de monde. Mais déjà cet après-midi, ça a bien commencé, je trouve. On a eu des chouettes retours par rapport à ce qu'on a mis en place hier après-midi. Et donc oui, les gens commencent à petit à petit, en tout cas pour le côté participation, ils commencent à s'impliquer un peu, à regarder le panneau qu'on a proposé, à venir nous parler, voir un peu, tiens, telle méthode, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se passe et tout ça. Donc en tout cas, pour nous, c'est assez chouette.
Vous parlez de récupération, c'est une pratique courante que vous avez en fait, parce que je pense qu'effectivement beaucoup de nourriture est jetée aux poubelles, et c'est intéressant ça, moi j'ai envie de vous interpeller un peu plus loin là-dedans, c'est une pratique courante ouais.
Oui, dans les gens du réseau et autres, ça arrive couramment qu'on aille dans un marché ou l'autre à Bruxelles, il faut un peu connaître les endroits où ça peut se faire, et puis alors ça nous arrive aussi de nous organiser un peu plus entre... on va dire quelques dizaines de personnes pour aller une fois au marché matinal, donc qui est le marché de gros, où là il faut y aller tôt le matin, mais on peut avoir beaucoup de quantités en une fois qui autrement seraient jetées. Et puis après, comme on est beaucoup, on peut se diviser facilement tout ça et on déguste des choses qu'habituellement on ne mange pas.
On dit qu'à peu près 30% de la nourriture part aux poubelles ici, en Belgique.
Mmh. Ouais.
Ouais. Est-ce que vous connaissez Disco Soup ?
Ouais.
C'est un collectif qui s'est monté en France. Alors, je ne sais pas s'il a fait des petits en Belgique.
Oui, il est à Bruxelles aussi.
Voilà, donc Disco Soup, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont faire les sorties de magasins, quoi, de grands magasins. Ils récupèrent les fruits et légumes invendus ou qui ne sont pas en très bon état. Et ensuite, ils sont des équipes de 10, 15, 20. C'est impressionnant. Ils prennent des grandes bassines, un gros camion et ils vont dans plein d'endroits partout en France. Ils débarquent avec la musique, les éplucheurs, les couteaux, et ils font de la bouffe pour 100, 200, 300 personnes, n'importe où, comme ça, partout. Enfin, à Paris, ils y sont tout le temps, à Lille, à Montpellier. Enfin, et c'est vraiment, vraiment génial parce que c'est... D'abord, ils réinvestissent la rue, donc forcément, c'est populaire. Le côté bouffe réunit quand même vachement les gens. Et puis, il y a donc, tout le côté environnemental, écolo, sur le donner une autre vie encore... Aux légumes, et c'est assez chouette. Donc c'est un peu dans la même mouvance.
Oui, exactement. Et alors ce qui est chouette, c'est de pouvoir expliquer aux gens, ben voilà, ce qu'on vous prépare là, les fruits qu'on vous montre, ben c'est des déchets, au fait, parce que du coup, on entend facilement parler les gens, mais enfin, ben, c'est des fruits pourris. Ben en fait, non, ils sont pas pourris. On a déjà fait un premier tri. Donc on a jeté une petite partie de ce qu'on avait récupéré, parce que ben, c'était trop loin, quoi. Mais il y a encore beaucoup de choses à utiliser. Donc c'est vraiment chouette de voir aussi que, ben, grâce à ça, les gens peuvent peut-être un peu ouvrir leurs yeux là-dessus et s'imaginer que, bah, ils pourraient éventuellement faire la même chose chez eux. Donc c'est un peu le but.
Quand on fait les poubelles réellement, moi je sors d'un collectif où on a fait les poubelles pendant 10 mois en fait. On a occupé un théâtre à Liège, et on a nourri tout le monde avec des poubelles, avec des déchets, avec de la récup pendant ces 10 mois. Mais on se rend compte qu'ils jettent des fois, mais longtemps avant la date de péremption en fait. Pourquoi ? Pour faire marcher, à mon avis, pour faire circuler le marché, pour dynamiser, on va dire, la vente. On ne sait pas pourquoi, mais effectivement, on est tombé sur des produits jetés bien avant la date de péremption.
Du coup, la deuxième activité là, sur le festival, tout à l'heure, je suis arrivée, là, il y a un truc sur l'intelligence collective avec plein de schémas, plein de machins, plein de bidules. Donc, il y a un grand tableau. Alors, il y a plusieurs phases de réflexion avec des trucs où on est connecté, des trucs où il faut réfléchir, les brainstorming et tout ça. Bref, clairement... C'est quoi ?
Clairement, c'est le parcours d'une idée. Donc là, comme tu l'expliques, ça a l'air d'être très complexe, très, très lourd, très compliqué. Mais en fait, on a voulu vraiment rendre ça chouette et actif. Donc notre idée, en fait, nous, notre gros kiff, en tout cas dans cette petite partie du réseau ADES, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a moyen de créer et de penser les choses autrement. Donc de penser, de décider, de travailler en groupe dans n'importe quelle structure. Et donc l'idée ici, c'est de vraiment... notre grande question, c'était comment est-ce qu'on va montrer ces méthodes et surtout que les gens participent et donc qu'ils les apprennent et qu'ils rentrent avec deux, trois petites idées, des astuces, des choses comme ça. Donc voilà, on a pas mal débattu sur comment on allait présenter les choses. Et donc, on est tombé sur un grand panneau qui montrait un parcours des idées. Et donc là, on est parti sur trois étapes pour les trois grands jours du festival. Aujourd'hui, on fait vraiment une récolte des idées. Donc on a mis un peu en place les méthodes... qui permettent aux gens de se lâcher complètement, d'être dans du très créatif.
Et donc, à ce moment-là, concrètement, en fait, toi, tu as un tableau, les gens viennent poser des questions, c'est ça ? Ou toi, tu poses des questions, tu interpelles les gens, ils viennent mettre des post-it, comment ça se...
Voilà, il y a un peu de tout, parce qu'on a du mal tout le temps. Ouais. Une fois qu'on est dans cette vision participative, on a toujours du mal, même nous, de nous dire, on va se limiter à 4 questions. Donc, on a dit, on va poser des questions qui pourraient stimuler les gens à nous donner certaines idées, et en même temps, on va leur laisser la possibilité de eux-mêmes poser des bonnes questions. Donc, voilà, même pour nous, c'est compliqué parfois de... Une fois qu'on est dedans, on a envie de vraiment ouvrir la participation à tout. Et donc, même, je crois qu'on pourrait même accepter que quelqu'un vienne nous dire, mais en fait, vos processus, il faudrait le changer.
C'est expérimental, quoi.
Voilà, tout le temps. Tout c'est ça l'intelligence collective. Donc, on serait même prêt à recommencer tableau blanc et refaire un nouveau parcours. Mais
nous-mêmes, dans l'équipe, on va faire un briefing chaque jour pour vraiment voir comment ça s'est passé la veille et voir en fonction de l'énergie que les gens mettent ici dans le festival. Et l'adapter, enfin la faire coller au mieux à l'énergie du festival et en faire un processus qui prenne vraiment vie dans le village des possibles, quoi. Et aujourd'hui, on a déjà eu plusieurs chouettes idées.
Voilà, c'est ce que tu as ramené là, on regardera tout à l'heure.
Ouais,
génial. Manu, tu voulais dire quelque chose?
Je voyais, elle disait partage d'idées, c'est ça, je voulais un peu intervenir et demander voir. L'idée est venue comment ? Dans le partage d'idées, quoi.
Alors,
l'idée dans le partage d'idées.
Oui, ce qui veut dire, dans votre partage, je vois, elle dit partage d'idées, ce qui veut dire d'autres personnes viennent poser des questions et aussi ils posent des questions. C'est à base de là, je voulais comprendre un peu...
En fait, l'idée, c'est qu'à un moment, on s'est recentré sur Esperanza. Donc, notre première idée, c'était de partir sur on a envie de faire connaître ces différentes méthodes de participation, d'intelligence collective. Et puis, on s'est dit comment on va les mettre en pratique. Et ben, tiens, il y a quelque chose qui nous rejoint tous ici, qui nous rassemble, c'est le fait qu'on est à Esperanza. Et donc, l'idée commune autour de laquelle on se rassemble pour l'instant, c'est de dire comment est-ce qu'on peut améliorer Esperanza, quelles sont les nouvelles possibilités à mettre en place et tout ça. Donc, ça, c'est un peu l'idée de l'idée.
Merci.
Justement, quand je suis passée tout à l'heure te rencontrer, Mélanie, il y avait deux questions moi, qui m'ont fait rigoler sur le tableau. Parce qu'il y avait le mot possible en fait dedans. Alors c'était, si tout était possible, quelle mesure radicale Esperanza devrait oser? T'as une idée, Ludo, toi?
Tout le reste.
Quel est le plus beau cadeau que Esperanza pourrait faire à son public?
Rester.
Rester.
Continuer.
Toujours?
Oui.
C'est possible, ça?
Ça a l'air.
Ouais, ça a l'air. Hein. Hier soir, ça avait l'air super possible hein, pendant le concert de Manu Chao. Là. Mm. Oh, je me suis montée sur les épaules d'un pote. À un moment donné, j'ai vu là, les 15 000 personnes. Là, tu te dis que tout est possible. Quoi. Manu, tu l'as vu le concert hier?
Oui.
Oui? C'était bien?
Très cool.
Cool. Du coup, est-ce que tu as des petites réponses? Alors, donc, il y avait plein de questions, plein d'idées qui avaient émergé sur le tableau. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous raconter?
Ouais, il y a eu plein d'idées. Et c'est vrai que ce qui est très chouette, c'est que justement, comme tout est ouvert, tu as vraiment des idées hyper concrètes, hyper pratiques. Mais tu as des idées aussi complètement un peu plus utopiques, d'engagement beaucoup plus fort aussi. Et par exemple, c'est vrai que l'idée principale, c'est de se dire que Esperanza, c'est vraiment la source du changement, quoi. Et donc, il y a plein de gens qui nous ont dit, si Esperanza, ça généralise, on peut croire au changement, c'est vraiment l'espoir collectif, l'espoir positif aussi d'un nouveau monde. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est beaucoup plus l'aspect engagé. Maintenant, il y a des trucs par rapport à l'engagement aussi qui poussent beaucoup plus au boycott, par exemple. Boycott des multinationales. Donc on voit qu'il y a des gens qui veulent aller encore plus loin, en fait, qui se disent que voilà, Esperanza ne doit pas non plus perdre justement toute sa valeur et qu'il faut aller encore plus loin par rapport à l'engagement. Après, il y a des trucs hyper, hyper concrets aussi, quoi. Des gens qui nous disent, on fait des prix libres partout, par exemple, et on se fait confiance, et encore une fois, on
fait
participe.
Des quoi, ils disent
des prix libres.
Ah, des
donc,
prix libres,
ouais. Ouais. Que ça soit pour les entrées, pour les boissons, pour la bouffe, vraiment que ça soit prix libre, qu'on construise vraiment ensemble et qu'on aille jusqu'au bout justement du processus. Que ouais, Esperanza nous dit qu'il y a un autre monde qui est possible, mais qu'ils le mettent en place aussi vraiment jusqu'au bout. Donc ça c'est vraiment, je trouve ça vraiment cool. Et après, t'as plein de trucs aussi hyper concrets, style les toilettes sèches par exemple. Donc
que ce soit 100% toilettes sèches.
Ouais. Et donc c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, en travaillant ensemble, et pour répondre aussi à toi Manu, l'idée, c'est vraiment aussi de se dire que, pour finir, on travaille ensemble, on construit ensemble, on réfléchit ensemble, on fait tout de manière collective, et c'est ça la force d'Esperanza, et c'est ça la force d'un collectif aussi, c'est pas de se dire qu'il y en a un qui réfléchit pour les autres, mais de se dire que voilà, tous ensemble, on est beaucoup plus forts, et on va tous avoir des idées différentes, et c'est en les mettant toutes ensemble que c'est la fête, quoi.
vous êtes bénévole, j'imagine, volontaire, je sais pas comment dire.
Oui, on est bénévole.
Comment ça vous est arrivé à un moment donné de vous dire, ah tiens, c'est possible de m'engager, d'aller dans ce réseau-là plutôt qu'un autre?
Le réseau est parti aussi peut-être d'un groupe de potes à la base où on était dégoûtés de plusieurs choses et donc on s'est dit il n'y a rien à faire, il faut changer quoi. Il faut mettre des choses en place, il faut se soutenir parce que parfois la vie nous fait aussi prendre quelques chemins parfois qui nous font complètement dévier et donc on voulait rester vraiment dans les alternatives et on s'est dit par les boulots parfois c'est pas toujours évident de pouvoir être engagé jusqu'au bout, être vraiment respecté aussi ses valeurs à 100%, c'est pas toujours évident et donc on s'est dit c'est bon, on va se rassembler, on va se réunir, on va faire des projets collectifs, on va se renforcer et soyons tous bénévoles et travaillons ensemble. Quoi.
Et l'avantage d'être bénévole justement, c'est qu'on est libre et on crée ce qu'on veut. Ici, le réseau ADES, c'est un truc qu'on a fait très flexible et de mois en mois, il se nourrit de ce qu'on y amène et c'est parce qu'on est bénévole qu'on peut faire ça.
Eh ben merci Mélanie, Julien, Chloé, vous restez avec nous. En fait, on a deux retardataires qui viennent d'arriver, le Repère Café.
Désolé.
Donc il y a Étienne, bonjour Étienne.
Salut.
Et ton prénom, je me souviens plus.
Grégory.
Et Grégory. Du coup, il nous reste quelques minutes d'antenne, on va manger un petit peu sur l'émission d'après, c'est pas grave. Donc je vous présente d'abord donc Manu, mon acolyte du Burkina.
Salut Manu.
Salut.
Ludo qui s'occupe de l'émission des autochtones mais qui donc du coup est aussi dans l'émission Possible or not possible. Le Repère Café, vous êtes en plein milieu du village des possibles, à l'entrée.
Oui.
C'est quoi le Repère Café?
Alors, le Repère Café, c'est une initiative qui a germé en 2009 aux Pays-Bas. Donc, c'est en fait un rassemblement de personnes, donc tous des bénévoles, qui proposent de venir réparer des objets. Donc, c'est en général une fois par mois. Dans un lieu, on vient réparer des objets qui présentent une défectuosité ou bien qui sont cassés. là, on peut parler de petite électro, d'informatique, ébénisterie, menuiserie, vélo, couture, enfin, il y a... C'est vraiment en fonction de ce qu'un bénévole peut amener comme savoir ou savoir-faire qu'il va y avoir une rencontre avec le visiteur qui vient avec l'objet, justement. Et ce n'est pas uniquement réparer un objet pour le compte de quelqu'un, mais c'est réparer l'objet avec quelqu'un. Donc il y a aussi une rencontre humaine là derrière. C'est une aventure humaine. Chaque Repair Café est complètement autonome dans sa gestion.
C'est ça, ce que tu me disais hier quand on s'est rencontrés. En fait, c'est un local. Il n'y a pas de centrale, en gros, ou de grand Repair Café national. Vous avez quand même une fédération, plus ou moins, qui existe.
Oui, il y a un rassemblement de différents Repair Café. Il y a une plateforme qui existe là maintenant, qui s'occupe surtout de diffuser l'information. Et ce n'est pas de la coordination, mais c'est... plutôt fédérer les Repair Café et aider à l'émergence aussi de nouvelles initiatives au niveau local. Par exemple, à Amur, on l'a lancé il y a un an et demi maintenant. On a 14 éditions derrière nous. On a eu un minimum de 18 bénévoles. On est monté jusqu'à 32 bénévoles sur un événement. Et c'est un événement qui a lieu entre 13h et 18h.
D'accord.
Donc sur 5h. Et... On a pu dépasser 300 personnes aussi en taux de fréquentation, enfin, pour les visiteurs et les personnes qui veulent faire réparer des objets.
Donc concrètement, moi j'habite à Namur, on aurait dit que j'habitais à Namur, oui. Que mon vélo était, mon four était cassé.
Voilà.
Et j'avais besoin de réparer mon four. Du coup, Repair Café est dans un local. Je crois que vous avez un local à disposition.
On a un local à disposition une fois par mois, la Ravik Boutique. Bon, enfin, ça, c'est surtout pour les auditeurs du CRU et de Namur, ici. Donc c'est boulevard d'Herbat.
À noter. Vous notez
Boulevard d'Herbat, tous les troisièmes samedis du mois. Comme ça, on fait un peu de pub aussi.
Exactement.
Septembre, octobre, novembre.
Le principe du Repair Café, c'est qu'il est un peu nomade aussi, justement. Il peut se déplacer dans d'autres endroits. À Liège, on sait pas trop à qui appartient le label d'ailleurs. On se pose la question. On a vu des Repair Cafés s'organiser à Liège, dans certains lieux publics. Voilà. Est-ce que c'est un label réel? Non, je pense pas.
Il y a un label, oui. Il y a un label Repair Café. Ça, je pense qu'il faut pouvoir rendre
à César
les lauriers qui lui appartiennent. Donc, oui, c'est cette dame qui a lancé les Repair Cafés en 2009, qui s'appelle Martine Posma. Qui effectivement a lancé les Repair Café avec une charte. Alors, on adhère ou on n'adhère pas à la charte. Si on y adhère, on peut avoir le label Repair Café. On n'y adhère pas, on peut s'appeler le café de réparation du coin.
D'accord.
Voilà, donc ça reste quelque chose de relativement libre. Maintenant, que ce soit nomade, que ce soit fixe, ça c'est vraiment en fonction de l'identité qu'on a envie de mettre à cette action.
Ouais, dans la propre localité où
on
a
monté. Donc ça reste vraiment une initiative citoyenne ou
populaire
ou associative, en général, de développement local. Alors,
redire, donc voilà, moi j'ai mon four, il est cassé. Ouais. Je sais qu'il y a un Repair Café ce dernier week-end du mois, enfin ce troisième week-end du mois. Et donc je viens, j'ai pas besoin de prendre rendez-vous, je débarque avec mon four.
Oui.
Grégory, c'est ça?
Oui.
Grégory, tu me dis, oh mais moi je sais réparer les fours, Lisette. Réparons les fours ensemble, c'est ça?
Ben voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que vous arrivez dans le Repair Café, et alors on a un petit passage à l'accueil où là on vous donne une petite fiche avec aussi les conditions générales aussi. Et donc après avoir cette petite fiche, ben, on va vous diriger vers une table. En fonction de l'objet que vous avez à réparer, donc ici en l'occurrence un four, ben on va vous diriger vers la partie électro, où là donc les gens vont pouvoir réparer, les bénévoles qui sont présents vont réparer le four, en faisant évidemment une transmission de pensée, parce que c'est pas juste l'objectif de dire voilà on vient faire réparer quelque chose, on le dépose là, on vient le rechercher après. C'est vraiment pour se mettre dans une mouvance, on vous montre comment on le fait, et par après... Ben, si vous avez le même problème, vous aurez peut-être plus de facilité pour le réparer vous-même chez vous et donc ne pas devoir se déplacer.
D'accord. Donc il y a de l'échange de compétences, enfin de la transmission de compétences. Ce qu'on se disait aussi
de savoir.
Il y a aussi recréer du lien dans un quartier, enfin ou dans un endroit. Et puis il y a toute la lutte contre l'obsolescence programmée,
le gaspillage,
les machines, le gaspillage, la seconde vie des produits.
Alors, Il faut savoir aussi que vu que sont chaque fois des projets locaux, il y a à chaque fois, j'en ai parlé tout à l'heure, une identité propre à chaque Ripper Café. Et il y a différentes valeurs en fonction des Ripper Cafés et des initiatives qui vont être mises en avant. À Namur, par exemple, on a voulu baser vraiment le concept sur la convivialité, l'échange humain, la lutte contre l'obsolescence programmée.
C'est dur à dire, hein?
Oui, oui, oui. C'est dur, mais c'est,
ça dépend des heures, quoi.
Oui, ça dépend des heures. On est deuxième jour de festival, mais c'est vachement festif ici. Donc, c'est obsolescence clair. Programmée, voilà. Maintenant, ça dépend. Il peut y avoir des projets aussi qui sont uniquement là pour créer du lien social au sein d'un quartier. Il n'y a pas toute la démarche par rapport à la transition, l'obsolescence, la réduction des déchets.
Oui, il n'y a pas d'éducation par rapport à ça. C'est que,
voilà, on peut être dans une démarche plus, quoi. Voilà, plus dans l'action de terrain, sans grosse réflexion là derrière.
Ça coule de source, quelque part, c'est ça que tu veux dire, ouais.
Ça dépend. Ça dépend vraiment de qui va initier le Ripper Café et de ce qu'on a envie.
D'accord.
Pour moi, en fait, le Ripper Café est un outil. Comme dans la SBL qu'on a à Namur, qui est, le Ripper Café, c'est une des activités que nous avons. Eh bien, c'est un outil que nous allons mettre à disposition de l'asso et des bénéficiaires ou des personnes qui vont fréquenter cet endroit. Mais il est perfectible. Et à chaque fois, on essaye de le faire évoluer. Alors, il y a Ripper, mais il y a Café aussi.
C'est ça.
Et ça, on...
C'est quand même... Oui, on vient prendre des cafés, quoi.
Enfin, je vais dire, non, c'est souvent la dimension qui est oubliée. Oui, c'est la dimension conviviale.
Le côté convivial, oui,
voilà,
c'est ça. Ouais.
Là derrière. Et se dire qu'on est là aussi pour s'arrêter, prendre le temps, se poser, échanger et vivre quelque chose différent, alternatif aussi.
Sinon, ça s'appellerait Cash Converter.
Aussi, on est bien d'accord. Voilà, ou la farfouille, enfin,
comment,
pas de public.
Comment ça se traduit, du coup? Excusez-moi. Comment ça se traduit, du coup, sur le festival, dans le Village des Possibles? Comment vous organisez ce Ripper Café? Concrètement, les festivaliers, la rencontre, elle se fait comment?
Concrètement, ici, donc, ce sont des gens qui passent nous voir au Ripper Café, soit pour demander des informations sur les Ripper Café, savoir ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ou bien parce qu'ils ont entendu parler vaguement, mais qu'ils aimeraient bien connaître un peu plus. Ou alors, évidemment, nous avons des gens qui viennent réparer des petits objets, comme des sandales, par exemple.
C'est le blockbuster en ce moment.
Un baffle.
Ah ouais, en bas.
Un petit baffle de...
C'est les pogos d'hier soir, non? C'est le pété de la sandale.
C'est plutôt ça, ouais.
Et donc voilà, ce sont tous des petits objets qu'on essaie de réparer évidemment avec les moyens du bord. Et quand c'est réparable, on le répare. Quand c'est pas réparable, évidemment, on dit que là, malheureusement, l'objet est cassé, donc on ne sait rien y faire.
Mais qui peut prendre un café quand même.
Bien sûr.
Oui,
bien sûr.
Et il y a possibilité aussi de prendre les coordonnées de la personne, de savoir dans quelle région, de quelle région elle vient, et de l'orienter vers un Ripper Café qui pourra peut-être réparer son objet à ce moment-là.
Super.
Voilà.
Ok, mise en relation, quoi.
Exactement.
Voilà, on crée
créer du lien.
Voilà. Et alors hier, parce que je me souviens, donc j'avais cru comprendre, Étienne, que donc il y a une ASBL, en gros, qui porte le Ripper Café, mais qui porte aussi deux autres projets.
Voilà.
Dont un qui s'appelle le garage, et l'autre qui s'appelle les machines du voisin.
Voilà.
Et le troisième qui s'appelle les ateliers du voisin.
Voilà, les ateliers du voisin, c'est en mode prototype. Maintenant, ce sera en place d'ici la fin août, donc dans un petit mois. Mais voilà, j'ai eu un parcours de vie un peu éclaté. J'étais cadre commercial, j'ai pété un plomb. Donc j'étais dans la société capitaliste, mais à fond, vraiment. Et il y a un an et demi, j'ai eu une prise de conscience.
Ah, juste il y a un an et demi, donc c'est tout
nouveau.
Ah
oui, non, c'est nouveau. On a fêté un an et demi de la SBL le 19 juillet. Et j'ai eu vraiment une prise de conscience. Voilà, il faut changer de vie, le changement du monde, le paradigme, etc. Ça va commencer par moi, à l'intérieur. Et j'ai eu envie de développer un projet qui... Voilà, qui tiennent compte un petit peu du parcours, mais qui servent au plus grand nombre aussi, et qui soient basés sur quelque chose de très très simple comme valeur, c'est apolitique, adogmatique, duplicable à volonté, qu'on puisse démarrer en étant chômeur avec 800 boules de revenus par mois, et qui fondamentalement... Voilà, un peu puisse évoluer aussi avec le temps et répondre
à
une demande.
Ouais, un besoin quotidien, un besoin.
Voilà. Et j'ai créé l'ASBL, les machines du voisin. Donc l'ASBL, les machines du voisin.
Alors j'ai une question, on va y revenir. Oui. Moi, si je vous dis les machines du voisin, vous pensez à quoi? Juste comme ça, s'il te plaît, Julien. Les machines du voisin, tu penses à quoi?
Belle mécanique.
Ah, on était là-dessus hier, ah, plus ou moins.
Là,
hein,
on
quand
était
même.
Là, toi, si je te dis les machines du voisin. Moi, tout de suite, j'ai pensé aux couilles du voisin, en fait. J'ai pensé qu'Étienne me demandait d'aller rencontrer le voisin, je trouvais ça un peu chelou. Ludo?
Sa copine?
Ouais. Ah ouais, bah ouais.
J'ai toujours préféré le voisin.
Manu?
Voilà. Moi, je crois que c'est l'amitié entre les deux voisins, quoi.
Ah, les machines.
Il y a une rencontre. Il y a une rencontre, Manu. Et c'est vraiment basé là-dessus, en fait. Et
donc, c'est quoi, alors, la machine
alors,
du voisin?
Enfin, les machines du voisin... Bon, l'appellation vient d'une asso française qui a été créée par des jeunes cadres dynamiques dans le cadre d'un projet de fin d'études qui s'appelle « La machine du voisin ». C'était un partage de machines à laver à Paris. Dans et dans les, voilà. Et j'étais tombé là-dessus. Je me suis dit « Génial, moi je vais partager ma machine à laver, je vis seul, super machine à laver, etc. » Dire qu'il y a des personnes dans mon quartier qui vont au lavoir, ça fait chier tout le monde d'aller au lavoir et tout, pour profiter de ma terrasse pendant qu'il y a la machine qui tourne et tout. Et donc, j'ai partagé les machines et ben, je préparais la buanderie pour recevoir les gens. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais plein de matos autour de moi dont je ne me servais pas. Je me suis dit, tiens, quels sont les objets que je n'ai pas touchés depuis un an ou même 6 mois et qui sont là? J'ai recensé un peu le truc, je me suis dit, mais tous ces objets, en fait, je pourrais les partager. Voilà. J'en ai parlé autour de moi, en 10 jours, y a eu un engouement là tout autour. On m'a rempli un garage, 2 bagnoles de matos.
C'est le risque.
C'était la folie furieuse. Donc, je me suis retrouvé à récurer des cuisinières bourrées de graisse et tout, avec 15 cm de neige dehors, c'était la folie. Si maintenant il faut faire quelque chose. Donc j'ai créé la SBL et là on a pu commencer à réfléchir à d'autres projets aussi.
Et donc comment ça se passe là pour les machines? Donc moi je, bah, pareil, j'ai besoin d'une machine parce que j'en ai pas. Je sais pas, ça se passe en ligne, c'est un coup de fil, c'est un SMS, c'est ton voisin, tu sais où il est, comment ça se goupille?
Mais en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit ben, on s'est déjà rencontré, donc tu m'appelles et tu dis, voilà, Étienne, j'aurais besoin par exemple d'une machine à laver. Ça, c'est le cas le plus courant. Et quand tu as une machine à laver qui claque chez toi, tu as 2 gosses ou 3 gosses, c'est tout le pan de ta vie, tout le rythme aussi qui peut s'écrouler. Donc une famille monoparentale.
Je connais.
Voilà. Une femme qui a 3 enfants, une machine à laver qui tombe en panne, c'est aller au lavoir, gérer les 3 gosses, ouais. Gérer les devoirs, gérer
ça,
le
ça. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est par voilà. Exemple, ça, c'est pas du tout possible.
Possible
et c'est pas recommandable.
Non.
Voilà. Et alors, si tu as 800 euros par mois de revenus, ou 1000 euros, ou 1200, et je pense que parmi les auditeurs, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce profil-là aussi, c'est juste pas possible de se racheter une machine à laver. Alors, on va la prêter pendant une période de temps déterminée, mais là, ça va être par rapport à la rencontre qu'on va avoir. Tu auras peut-être besoin d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois.
Okay.
Ce qui m'interpelle, moi, c'est que dans nos pays qu'on vit cette situation, dans les pays pauvres, on partage d'office.
C'est naturel, là-bas.
Toi, en Afrique, où on partage d'office une machine à laver. Elle sert pour le village, bien sûr. Et ici, là, on est dans un mode très, très individualiste où le partage doit s'imposer. On doit aller vers ça parce qu'on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. On n'a pas naturellement, tout à fait.
Voilà. Et c'est quelque chose, moi, à aucun moment je me suis dit que j'étais en train de réinventer la roue en proposant ça. C'est vrai que c'est aussi un prototype, cet assaut, et dire, voilà, c'est du prêt. Donc, ce n'est pas de la location, ce n'est pas de la vente.
Écoute, c'est magnifique.
C'est pas du... Voilà.
C'est top.
Et saisir, ça existe ailleurs. On peut le faire ici. J'ai envie de me le dire rien que pour moi.
Allez,
non, mais c'était vraiment ça.
C'est possible.
Allez, quand on vit comme un commercial ou cadre commercial, tout tourne autour de la boutroule. On peut rester égocentrique en se disant que tout part de soi-même et du centre de soi-même. Mais putain, non. Juste être altruiste aussi. C'est-à-dire que ça peut diffuser vers d'autres personnes.
Chapeau, l'ami.
Les amis, on va devoir se quitter. On a débordé. C'est pas grave parce que de toute façon, ils reprendront l'antenne que dans 17 minutes. On va passer des petites PAD. Manu, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Non, c'est juste dire merci et aussi encourager notre ami qui parle des machines. Donc, je vois que son idée est très cool. Donc, merci. Et nos frères aussi qui parlent aussi de, je ne sais pas, des fruits.
Des fruits, des idées, d'intelligence collective.
Je vois aussi que c'est très cool parce qu'on dit que quand on s'unit, on se lève aussi. On soulève aussi quelque chose de très très important parce que on a un adage aussi chez nous qui dit que l'eau se mélange pour soulever le bois, sinon le bois ne peut pas se lever seul. Donc c'est ça. Merci à vous.
Merci. Et ouais, on dit, je crois, je sais plus, quelqu'un me disait l'autre jour, on dit ensemble, tout seul on va plus haut, mais ensemble on va plus loin. C'est ça.
C'est ça.
T'as pas un petit proverbe burkinabé là, sorti de là-bas à nous filer avant de partir?
Non, bon, peut-être de même pour le moment.
Bon, du coup, vous, pour les auditeurs et les auditrices, à 17h45, interview de Moriarty et Christine Salem en direct dans le studio. Nous, on se retrouve demain à 16h30 pour 45 minutes de Possible or Not Possible. Voilà, merci le réseau Hadès, merci le Repère Café,
merci
à mes copains qui sont autour de la table. Manu, merci.
Merci.
À Ludo, Sylvain, notre cher Sylvain. À la technique, tu nous envoies un petit son là? C'est quoi? Bah, je sais pas. Ah oui, on s'envoie une petite PAD de Hello Girl qui a co-construit le village des possibles et qui tout à l'heure faisait des crêpes sérigraphiées au chocolat en plein milieu.
Super photo.
Du village, c'est vrai ?
Cet événement, c'était complètement barré.
Ils sont complètement barrés, donc on écoute Hello Girl. Ciao.
Le jardin des autochtones.
Bonjour, ma maman m'appelle Jojo. Ici en face de moi, nous avons monsieur le journaliste, je ne sais pas comment il s'appelle.
François.
Salut François. Il y a Romain, Papy, et on est une bonne équipe à la base de sérigraphie. On a un atelier à Liège chez notre ami Kevin. Et on vit là et on fait, ouais, comme je te dis, à la base plus de sérigraphie.
Tu vois ce que c'est la sérigraphie, donc c'est impression.
Mais explique-le peut-être.
Sérigraphie, c'est un processus d'impression. Nous on le fait à la main quoi. Maintenant il y a beaucoup d'industries qui font des machines quoi, qui actionnent et qui font 1000 t-shirts à je sais pas combien de temps, mais super rapide. Donc nous on est plus dans la main quoi, on fait tout les calques et tout ça. Si tu visualises tu comprendras, mais... Et donc voilà, donc on est en gros dans la sérigraphie, on est venu ici mettre notre petit stand pour présenter ce qu'on fait et aussi proposer aux gens qui puissent venir parler avec nous, voir qu'ils viennent à la maison dans notre atelier, ou alors qu'on discute par mail ou voilà, par pigeon ou quoi, comme on veut, et leur proposer de pouvoir imprimer, d'avoir une expression visuelle quoi. C'est vraiment ça quoi. Et donc dans ce qu'il y a, c'est que la sérigraphie demande quelques matières chimiques comme ici tu vois, qui réagit aux UV, et il y a moyen de le faire avec d'une autre, sans tous ces produits quoi. Nous, on va essayer de leur proposer un peu ce week-end des façons faites de montrer différemment que tu pourrais faire de la sérigraphie autrement qu'avec tous les produits. Avec ce que tu peux trouver sous la main, sous le bras de ta grand-mère, mais sous ses rideaux, quoi, du moins, avec les rideaux de grand-mère, enfin tout ça, il faut voir. Quoi.
Vous travaillez sur n'importe quel support, en fait? Il y en a un préféré?
Pour le moment, ça dépend. Tu vois, on a des périodes, je sais pas, genre Kev, avant qu'on arrive, il était beaucoup plus sur le textile, je pense. Et nous, on est là, on est plus dans l'expérimentation papier, tu vois. Plus papier, tu vois, essayer de voir un peu avec les contrastes couleurs, différents. On fait beaucoup de récup, quoi, beaucoup de récup de papier sur les fins de brocante. Et du coup, on réimprime dessus, on fait des superpositions et tout ça. Et on traficote un peu avec ça, quoi. Après, on a chacun aussi nos petits domaines, quoi. Tu vois, par exemple, on a notre ami ici, mais qui lui n'a pas fait ses présentations de plantes pour le festival, mais lui qui est vachement opté sur les plantations et leur environnement, quoi. Il travaille dans les serres botaniques à Liège. Okay. Et voilà. Mais là, on n'a pas de présentation pour ça. Sinon, bah, t'as Romain qui est plus dans l'illustration. Moi, je chipote un peu dans l'illustration aussi. Genre Romain, lui, pour apprendre Romain de ses trucs, c'est illustration,
construction.
Ouais, c'est ça. On vit dans la maison qui va une baraque qu'on retape depuis 2 ans. Il y a énormément de boulot et en 2 ans, on a tapé dedans, quoi.
Là, on a une dizaine de personnes à vivre là-bas. Et vraiment un peu dans tous les genres. Il y a des enfants qui vivent avec nous. Et on a un potager qu'on gère, comme il t'a expliqué tout à l'heure, quoi, avec Max et Sarah, qui est là aussi plus loin. Donc eux, c'est plutôt leur partie plutôt nature. Et on réaménage ce bâtiment qui était une ruine totale. Et donc on a reconstruit différents logements. On a un énorme atelier dans lequel on fait des petites expos, des concerts, des bouffes pop, des petits marchés artisanaux.
Et il se trouve où, cette maison ?
Il se trouve rue Lamarque, 57 à Liège, dans le quartier nord, dans le quartier Saint-Léonard. Un quartier assez défavorisé et où il y a pas mal de cultures différentes et où il y a blindé de gens qui viennent se réinstaller maintenant. Et donc voilà, c'est un quartier qui commence à revivre et pas mal d'artistes aussi. Et voilà, super chouette.
Ah bah écoute, cool. Et vous êtes là les 3 jours alors, non-stop? Et
là, on sera là, ouais, jusque lundi même carrément pour démonter le joli stand que tu vois et qu'on laisse imaginer à tout le monde récupérer.
Bah qu'il faut venir voir, tout simplement.
Voilà, qu'il faut venir voir, tout simplement, quoi, voilà.
Bah écoute, bah merci à vous, alors.
Merci à toi.
Et bon festival.
Merci à toi aussi et à tous ceux qui nous écoutent. Amusez-vous bien, quoi, et passez nous voir. Au moins pour imprimer un petit t-shirt. Voilà, venez avec un t-shirt à vous ou vous enleverez celui que vous avez sur vous ou votre culotte, votre slip, n'importe quoi, on imprime tout.
Le off.